Farafina.
Farafina.
Terre de soleil.
Farafina.
Farafina.
Un magazine d'infos africaine. Présentation, Guillaume Kabisoso.
Bonjour à tous et merci pour votre fidélité à cette nouvelle édition de Farafina que nous vous présentons depuis nos studios d'Auckland Park en Afrique du Sud. La mise en onde est entre les mains d'Ibrahim Ravelino. Tout de suite, voici ce qui fait les grandes lignes de ce magazine. Les forces armées de la République démocratique du Congo affirment avoir mis en déroute plusieurs milices qui ont attaqué mercredi ses positions dans la région des Minembwe. Plusieurs centaines de réfugiés devant le siège du ICER à Cape Town pour demander leur relocalisation. Nous sommes en Afrique du Sud. Au Tchad, le comité d'autodéfense des Miskis dit avoir repoussé une attaque de l'armée tchadienne lors des violents affrontements mercredi. Voilà pour le grand titre. Place à présent à Pamela Kumba pour le bulletin d'information. Je vous retrouve juste après pour la suite de ce magazine.
Merci Guillaume et bonjour à tous ceux qui sont connectés. On commence tout de suite en Libye. Les trois membres africains du Conseil de sécurité ont échoué mercredi à obtenir la nomination d'un émissaire conjoint de l'Union africaine et de l'ONU pour la Libye. Les Occidentaux ont refusé d'évincer le Libanais Gassam Salamé selon des diplomates. Les États-Unis et les Européens ont simplement déclaré qu'ils ne changeront pas de cheval de bataille au milieu du guet. Et c'était à l'issue d'une très longue réunion à huis clos demandée par l'Afrique du Sud, la Côte d'Ivoire et la Guinée équatoriale. La Russie et la Chine n'ont pas réellement penché dans un sens ou dans un autre, selon d'autres diplomates, mais Pékin a tout de même plaidé pour l'harmonie du Conseil. Des fusils mitrailleurs, d'armes de poing, de roquettes anti-chars, de grenades et plusieurs caisses à munitions de petit calibre, ainsi que des appareils d'observation, ont été découverts dans le nord du Niger. C'est l'information publiée ce jeudi dans un communiqué de la force militaire régionale du G5 Sahel. Cette force G5 Sahel a repris ses opérations début octobre après plusieurs mois d'arrêt et c'est dans ce cadre que cette importante saisie d'armes a été opérée dans le nord du Niger. L'opération a été menée du 1er au 10 octobre par le bataillon nigérien de Madama et c'est aussi la première sortie de ce bataillon depuis la prise de fonction du nouveau commandant nigérien de la force, le général Umaru Namata Gazama. En Guinée, plusieurs médias locaux ont revu à la hausse le bilan des manifestations contre le troisième mandat du président Alpha Condé. 9 personnes ont été tuées et des dizaines de blessés, notamment à Conakry, la capitale, depuis lundi, selon une confirmation du gouvernement. Ce dernier a reconnu la répression en affirmant que ces manifestations non autorisées ont engendré des conséquences tragiques. Le Front national pour la défense de la Constitution, la coalition de partis d'opposition, de syndicats et d'associations de la société civile, à l'origine des manifestations, a pour sa part dénombré 10 morts côté manifestants, 70 blessés par balle et près de 200 arrestations. A noter par ailleurs que le procès des principaux initiateurs de cette manifestation anti-troisième mandat a été suspendu jusqu'à vendredi. Au Maroc, la journaliste Hajar Raissouni a été graciée par Mohamed VI mercredi. Elle avait été condamnée à 1 an de prison ferme pour avortement illégal et relations sexuelles hors mariage. Sa condamnation avait fait un tollé dans la société marocaine et sur les réseaux sociaux. Selon un communiqué diffusé par l'agence marocaine de presse officielle, le fiancé d'Hajar Raissouni a été aussi gracié, ainsi que tous les membres de l'équipe médicale qui avaient été poursuivis dans ce dossier. Le communiqué précise que cette grâce a pour but de préserver l'avenir des deux fiancés qui comptaient fonder une famille conformément aux préceptes religieux et à la loi malgré l'erreur qu'ils auraient commise. Et parlons justement de grâce. Au Togo, par contre, c'est l'activiste Folly Sativi qui a été gracié mercredi. Le leader du mouvement, en aucun cas, a vu la cour d'appel annuler sa peine de 28 mois, dont 6 avec sursis, qu'il purgeait. Il avait été condamné à 3 ans de prison pour apologie et incitation à commettre un crime et troubles aggravés à l'ordre public alors qu'il tentait d'organiser une conférence de presse. Ses avocats avaient fait appel. L'activiste n'entend pas abandonner son combat. En Algérie, par contre, le journaliste et militant des droits de l'homme, Saïd Boudour, attend d'être placé en détention. Il est accusé d'atteinte au moral de l'armée et atteinte à l'unité nationale. Arrêté le 6 octobre dernier, Saïd Boudour avait été laissé en liberté conditionnelle. Mais le tribunal d'instance d'Oran a décidé de revenir sur sa décision. Saïd Boudour est l'un des militants les plus actifs et les plus en vue à Oran. Il a été arrêté pour ses opinions et son engagement politique. Journée mondiale pour l'élimination de la pauvreté. En République démocratique du Congo, le président Félix Tshisekedi a promis mercredi de sortir le quart de la population de la République démocratique du Congo de la pauvreté d'ici à 5 ans. Ce programme vise à ce que 20 millions de Congolais vivant en milieu rural et périurbain, dans les 145 territoires du pays, quittent la pauvreté ou l'extrême pauvreté dans les 5 prochaines années. Le président congolais a fait cette promesse lors du lancement d'un programme accéléré de lutte contre la pauvreté et les inégalités dans son pays.
Channel Africa, écrivez-nous sur notre page Facebook Channel Africa. Faites-nous des tweets, @FrenchFarafina ou bien @ChannelAfrica1.
Nous ouvrons ce magazine des actualités par la République démocratique du Congo où des milices fuyant une contre-offensive de l'armée congolaise ont incendié et pillé des villages dans la province du Sud Kivu dans l'est du pays. Depuis 5 jours, des milices lancent des attaques contre les positions de l'armée congolaise qui a déclenché mardi une opération contre plusieurs de ces milices dans la région des Minembwe, théâtre des violences depuis début mai. Suivons le capitaine Dieudonné Kasereka, porte-parole de l'armée congolaise dans la zone.
Oui, il y a eu des petits groupes qui ont attaqué nos positions il y a de cela 4 jours. Ils ont attaqué nos positions FRDC et ils ont été repoussés. Et pour le moment, à Minembwe, la situation est sous contrôle des FRDC. Elle est calme.
Les troupes qui vous ont attaqué sont-elles des milices ou des groupes de Maïmaï ou des troupes étrangères?
Vous savez qu'à Minembwe, il y a 4 communautés et chaque communauté a son groupe de Maïmaï. Et chaque groupe Maïmaï est soutenu par un groupe à l'événement d'un pays voisin. Donc, il faut en train de faire une coalition ensemble pour nous attaquer, mais nous sommes en train de nous défendre de manière chose.
Donc, vous confirmez que pour le moment, vous avez le contrôle total de la région de Minembwe et que les assaillants ont été repoussés?
Oui, oui. Minembwe et ses environs, ce sont les FRDC qui sont là-bas et contrôlent la cité. Et pour le moment, nous sommes en train de continuer à pourchasser les filles dans la forêt parce que ce sont les enfants, les maïmaïs qui sont en train d'opérer là-bas. La plupart sont des enfants du milieu, alors ils sortent de la forêt. Alors, ils sont dans la forêt, ils continuent à pousser pour essayer de mettre fin à ces aventures-là.
Monsieur Dieudonné Kasereka, vous êtes le porte-parole des FRDC dans cette opération Soukola. Pourriez-vous nous donner les bilans lors des attaques dont vous avez parlé?
Je vous dis, depuis 4 jours, nous sommes en opération. manifestations contre ces c'est hier que nous avons mis en déroute les derniers groupes. Et pour le moment, nous sommes en opération de ratissage. Donc, essayer de faire le ratissage partout où ils sont passés. Et pour voir qu'ils sont morts, qui ont été blessés. Et ce n'est qu'après les opérations de ratissage que nous vous donnerons le bilan définitif.
Donc, à présent, nous pouvons confirmer qu'il n'y a pas eu de morts de votre côté.
Il y a eu des morts, mais nous vous donnerons le bilan après, parce que nous sommes encore en pleine opération de ratissage. Dès que nous aurons, vous nous rappelez, nous vous donnerons le bilan. Pour le moment, il y a une équipe de RDC qui est en train de chasser l'ennemi dans la forêt. Et il y a une autre qui est en train de faire le ratissage pour nous assurer que le nombre d'environ est vraiment sécurisé. Vous savez, toute la population a fui leur village. Donc, plusieurs populations ont fui leur village. Et pour le moment, ils sont concentrés au centre des mines. Ils devront rassurer leur sécurité. Et c'est comme ça que nous vous disons que nous aurons terminé les opérations de ratissage. Nous vous donnerons le bilan. Dans leur suite, les mamans sont en train de briller des maisons et ils sont en train de piller les bétails et les vaches des citoyens.
Toujours en République démocratique du Congo, les enquêtes se poursuivent pour fournir de la lumière sur le crash de l'avion affrété par la présidence de la République. Des équipes d'enquête sont déployées sur le terrain où a été retrouvée l'épave de l'Antonov 72 dans la province du Sankuru. Le gouvernement a appelé les Congolais à la retenue et à éviter les spéculations, mais en tout cas, l'Union pour la démocratie et le progrès social a demandé à la MONUSCO de sécuriser le président Félix Tshisekedi. Depuis Kinshasa, c'est une correspondance de Jean-Noël Bamwindi.
Il y a une semaine, depuis que l'avion affrété par la présidence de la République pour assurer la logistique dans le déplacement du chef de l'État à Beni et Bukavu dans l'est du pays a pu disparaître. Les pavés et autres débris de cet Antonov 72 ont été finalement localisés dans le village de Koto, en territoire de Kolese, dans la province du Sankuru, au centre de la République démocratique du Congo. Les raisons qui ont fait que l'appareil disparaisse des radars 58 minutes seulement après son décollage de l'aéroport international de Goma ne sont pas encore connues. L'avion qui devait atterrir à l'aéroport international de Ndjili, ici à Kinshasa, a finalement fait crash dans le Sankuru. En tout cas, ces raisons restent inconnues. Des experts sont déployés sur le terrain pour plus de lumière sur cet accident. Et justement, parmi les équipes d'enquête sur le terrain à Kolé figure celle du gouvernement de la République démocratique du Congo et celle de la mission des Nations Unies dans ce pays. Dans un communiqué publié ici à Kinshasa, le gouvernement congolais a appelé justement à la retenue et à éviter toutes spéculations en attendant les résultats des enquêtes en cours. Mais en tout cas, depuis Kananga, le parti présidentiel, l'Union pour la démocratie et le progrès social a demandé à la MONUSCO de sécuriser le président Félix Tshisekedi. Et pendant ce temps, l'unité des 26 provinces, mieux connue comme U26, lance un appel à tous les Congolais de demeurer unis et responsables. Écoutons plutôt le président de cette organisation, Christian Kankou.
Cet événement survient alors que nous sommes en pleine campagne de sensibilisation pour l'unité nationale, laquelle campagne est axée sur l'article 69 alinéa 1er qui dispose ceci, je cite, le président de la République est le chef de l'État, il représente la nation et il est le symbole de l'unité nationale. Parce que cette tragédie affecte premièrement l'institution président de la République et qu'elle peut mettre en péril l'unité de la nation. Nous avons appris que l'Antonov en question a été retrouvé dans la province du Sankuru, précisément dans le village de Okoto, dans les territoires de Kolé. Les enquêtes sont en cours et toutefois notre ASBL du 26 s'est dit confiante en la cellule de crise mise en place par le président de la République pour établir les causes réelles et les responsabilités de ces crashs de l'Antonov 70. En tant qu'ASBL qui prend l'unité nationale, nous appelons les Congolais de tous bords, les Congolais de partout, quelle que soit leur tendance, quelle que soit leur appartenance tribale, ethnique, nous les appelons à l'unité et à la responsabilité, car l'heure n'est pas à la division ni à la discorde. Il en est de même pour les autorités à tous les niveaux, à tous les échelons qu'il s'agisse, ils ont la responsabilité de sauvegarder l'unité de la République. Pour U26, cet événement malheureux ne doit pas s'aimer la division et étioler notre cohésion sociale, notre vivre ensemble, mais plutôt nous rassembler autour de principes de solidarité et de fraternité chers à notre peuple.
Cette déclaration, l'organisation Unité des 26 provinces l'a faite ici à Kinshasa au moment où les Congolais sont divisés sur le crash de cet appareil. Les militants de l'UDPS y voient une main noire qu'ils tentent même de coller à l'ex-président Joseph Kabila. Jean-Noël Bamoisé pour Canal Africa Kinshasa.
Au Tchad, des violents affrontements mercredi entre l'armée tchadienne et les comités d'autodéfense à Miski, à 50 km de Yébibou. Les bilans font état des 3 véhicules de l'armée tchadienne qui auraient été détruits et d'importantes pertes en vies humaines qui auraient été enregistrées dans les rangs de l'armée qui avait lancé une offensive contre la position des combattants du comité d'autodéfense avant d'être repoussée. On écoute Mouli Sougui, le porte-parole du comité d'autodéfense.
Oui, bien sûr. Hier, vers 11h, le 16 octobre, vers 11h, l'armée du régime dictatorial du Dis-Déby a lancé une offensive à 50 km de la localité de Yibibou, donc sur une position tenue par le comité d'autodéfense. Et puis, ils ont vraiment perdu beaucoup d'hommes. Plusieurs véhicules. À l'heure où je vous parle, ils ont fui, ils sont à une huitaine de kilomètres de là où il y a eu combat.
Et ces combats ont repris avec quel objectif finalement? Les dialogues est-il vraiment rompu et c'est maintenant le largage des armes qui prévaut?
Absolument. Moi, je vous ai dit la fois passée que Idriss Déby ne comprend et ne parle que le langage des armes. Donc, c'est pourquoi il a lancé cette offensive qui était un échec. Et nous pensons que même s'il engage toute l'armée tchadienne, il ne peut pas réussir la guerre.
Qu'est-ce qui explique la résistance du comité d'autodéfense de Miski jusqu'à repousser toute une armée tchadienne qui attaquait cette région? Avez-vous des soutiens quelque part?
Non, nous, on n'a pas de soutien. Nous battons avec les moyens de bord. La genèse de ce problème, c'est que Déby et son clan au pouvoir voudraient absolument exploiter l'or de Miski en dehors de tout cadre légal. Donc, nous, conscients ou bien échaudés par l'expérience du pétrole de Douba, donc on n'a pas accepté l'exploitation de l'or d'une manière illégale. Mais Déby voudrait absolument s'accaparer de cette richesse. Donc, nous, on n'a pas de soutien extérieur, mais nous sommes un comité d'autodéfense, jusqu'à là, apolitique, avec des revendications locales. Mais nous ferons tout pour empêcher Déby de mettre la main sur cette richesse pour renforcer son pouvoir à vie.
Qu'en est-il de la main tendue que vous lui avez offerte? La rejette-t-il toujours ou plutôt il y a moyen finalement que cette épineuse question d'exploitation d'or dans cette région soit résolue à travers un dialogue franc?
Il a toujours rejeté la main tendue. Je vous répète que Déby ne comprend et ne parle qu'avec le langage des armes. Donc, il a toujours rejeté la main tendue que nous avons fait envers le régime, mais je pense que avec ces nouvelles offensives, ce blocus total sur la localité, donc je pense que la situation va s'empirer davantage.
Et vous avez une idée sur le bilan des affrontements d'hier? Vous avez parlé d'une offensive de l'armée tchadienne qui a été repoussée.
Dans cette offensive, l'armée a perdu plusieurs militaires, voire même une quarantaine ou cinquantaine de militaires tués. Plusieurs véhicules ont été calcinés. Il a fui du champ de bataille, donc il est allé stationner à 8 km de la zone du combat. Et à l'heure où nous sommes, nous tenons nos positions. Et puis, depuis hier, il n'y a pas une nouvelle offensive.
Le roi du Maroc, Mohamed VI, a gracié la journaliste Hajar Rassouni, récemment condamnée à un an de prison pour avortement illégal et relations sexuelles hors mariage. Une victoire non seulement pour sa famille et les membres de la presse, mais également pour Amnesty International. Le directeur de cette organisation, Salaj Abdelawi, affirme que c'est une bonne nouvelle pour les défenseurs des droits de l'homme. Il est joint par Chanceline Louraqua.
C'est un côté positif qu'elle soit libérée pour tous les défenseurs de droits, pour la famille, pour Azar et tous les défenseurs de droits de l'homme qui sont et tous les gens qui ont signé les pétitions pour exiger sa libération. Donc, Amnesty a toujours considéré que Azar Issoumi est une femme libre, elle devait être libre et ses droits fondamentaux ont été bafoués.
Pourquoi vous dites que la journaliste ne devait pas être emprisonnée et que ses droits fondamentaux ont été bafoués alors que la loi marocaine interdit aux jeunes femmes de faire l'avortement et les relations sexuelles hors du mariage?
C'est une contradiction que nous avons toujours soulevée dans la loi marocaine, qui va en contradiction totale avec la constitution marocaine, qui, dans son préambule, reconnaît la primauté des conventions internationales à laquelle le Maroc a adhéré. Les conventions internationales des droits de l'homme respectent les droits de la femme et garantissent les libertés individuelles, ce qui n'est pas le cas au niveau de la loi nationale, et c'est notre combat depuis des années, et nous avons toujours exigé justement, et nous continuerons à le faire, d'annuler l'article 490 du Code pénal marocain, qui pénalise toute relation sexuelle entre adultes et de manière consentante. Donc c'est une contradiction, et c'est un non-respect des libertés individuelles, et c'est notre exigence, c'est notre appel que nous continuons de plaider pour et de se battre pour.
Vous dites que c'est le non-respect de libertés individuelles. Mais quand en est-il avec votre proposition concernant l'avortement illégal et les relations sexuelles en mariage au niveau du Sénat marocain?
Au niveau du Parlement marocain, donc il y a un projet qui traîne depuis presque 3 ans, appelant à un respect total du droit à l'avortement des femmes et aussi les libertés individuelles, du fait que nous exigeons que certaines lois soient harmonisées ou modifiées pour être en harmonie avec les conventions internationales et l'esprit de la Constitution du Maroc. Nous espérons qu'il y aurait des changements aussi à travers cette affaire et que les partis politiques tireront la leçon de cette affaire de Azar Issoumi et prendre la bonne initiative et harmoniser la loi marocaine à ce niveau.
Direction à présent le Togo où l'activiste Sativi Foli a été libéré mercredi sur une grâce présidentielle conformément à l'article 73 de la Constitution. Arrêté alors qu'il s'apprêtait à donner une conférence de presse le 22 août 2018, l'activiste avait été condamné à 36 mois de prison dont 24 fermes pour troubles aggravés à l'ordre public et apologie des crimes et des délits. Sativi Foli a été gracié après avoir passé pratiquement 14 mois en prison. Il a été joint par Pamela Kumba.
En fait, je ne m'y attendais pas. Je ne m'y attendais pas parce que depuis que j'avais été condamné en appel à 28 mois d'emprisonnement, dont 6 de sursis, je me suis dit « Ah, il fallait que je me prépare à purger les 8 mois qui me restent à faire. » Donc, j'ai pris toutes les dispositions idoines, toutes les dispositions conséquentes plutôt, quand subitement, les envoyés du ministère de la Justice sont venus penser que le président Faure Gnassingbé a bien voulu m'accorder une grâce présidentielle. Temps normal, c'est à une personne qui a commis une faute qu'on accorde une grâce. Parce que la grâce signifie en fait le pardon, alors que dans le cas actuel, j'ai été arrêté et détenu de façon arbitraire. Et normalement, je devais être libéré et dédommagé pour tout le temps qu'ils m'ont fait perdre. Bon, on a échangé par après. J'ai réfléchi, j'ai dit « Ok, je vais accepter la grâce tout en poursuivant le combat. » Parce qu'à l'intérieur de la prison aussi, c'est un combattant de moins pour la lutte politique au Togo. Donc il fallait que je puisse accepter et rejoindre les camarades de lutte afin de poursuivre notre lutte et l'achever.
Alors, en prison, vous étiez donc le seul membre du mouvement en aucun cas Togo.
Oui, j'étais le seul membre du mouvement en aucun cas à être en prison. Il y avait certes eu quelques membres qui étaient arrêtés à un moment donné, mais bon, ils ont été libérés sur le champ. Mais là, je suis resté le seul. Mais outre moi, il y a quand même d'autres concitoyens qui ont été arrêtés dans le cadre des manifestations politiques de l'opposition et de la société civile qui croupissent toujours là. Ils sont actuellement au nombre de 50 à accroupir encore à la prison civile de Lomé pour leurs opinions.
Pouvez-vous revenir un peu sur le motif de votre arrestation?
Bon, on m'accuse d'apologie au crime et délit. Bon, en réalité, tout ça, ce sont des inventions, des accusations fallacieuses inventées de toutes pièces dans le seul et unique but de pouvoir justifier mon kidnapping, si je dois l'appeler ainsi. Parce qu'en réalité, on m'a arrêté quand j'ai voulu tenir une conférence de presse au nom du mouvement en aucun cas. Et nous avons voulu tenir la conférence le 22 août 2018. Quand arrivé sur les lieux, j'ai constaté une forte présence militaire et policière. J'ai approché le commandant qui avait en charge les troupes. J'ai eu à discuter avec lui. Je lui ai demandé ce qui se passait. Il m'a dit qu'ils ont été instruits pour venir empêcher notre conférence de presse. J'ai dit, ok, c'est compris, nous allons sursoir à notre activité. Mais curieusement, il m'a donné le ok, chemin faisant, à hauteur de leur jeep, de leur voiture, de la voiture de la police, il reçoit un appel et il me dit, les consignes ont changé, monsieur Satifi, montez dans la voiture. Je suis monté dans la voiture, ils m'ont amené au service de renseignement et des investigations, et là, il m'informe que notre mouvement elle-même est illégal, et que la conférence de presse, elle aussi, elle est illégale. Je dis, je ne comprends pas. Comment est-ce qu'une conférence de presse peut être illégale? C'est incompréhensible. Et comment est-ce que notre mouvement, qui est un regroupement d'associations légalement constituées, peut être illégal? C'est encore incompréhensible. Voyant qu'ils ne pouvaient pas tenir le débat sur cet angle, ils ont commencé par dire non, que c'est moi qui suis en train de m'opposer au chef de l'État, c'est moi qui veux que le chef de l'État parte. Aujourd'hui, ils m'ont eu, ils vont me montrer de quoi ils sont capables. Le soir, je suis arrivé chez le procureur de la République qui m'informe que, bon, il me poursuit pour apologie au crime et délit, pour un message que le mouvement en aucun cas, pas pour un message que j'ai publié, mais que pour un message que le mouvement en aucun cas dont je suis membre a publié depuis plus de 2 semaines et par lequel le mouvement appelait tous les Togolais à se mettre en habit rouge pour montrer au chef de l'État et à la classe politique tout entière leur mécontentement par rapport à tout ce qui se faisait.
Vous écoutez Channel Africa à la radio et sur Internet www.channelafrica.org.
Je vais à présent céder la place à Chanceline Louraqua qui vient de faire son entrée dans ses studios pour nous présenter la page économique.
Merci Guillaume Kabisoso et bonjour à tous. Nous ouvrons ce bulletin économique au Ghana avec le sommet africain pour le climat qui se poursuit jusqu'au vendredi 18 octobre prochain à Accra. Pendant ces 3 jours, ce sommet permettra aux municipalités d'échanger sur leurs différents projets. La question du financement doit également être abordée. Cette rencontre est également une opportunité pour faire grandir les coalitions en agrégeant des nouveaux acteurs dans la dynamique de travail en commun. Les sommets africains pour le climat souhaitent ainsi mobiliser la communauté d'acteurs agissant pour le climat en Afrique, renforcer les synergies entre ces acteurs et propulser leurs actions, paroles et priorités sur les devants de la scène climat internationale. C'est ce jeudi que la loi de ratification de l'accord de financement de 100 millions de dollars en faveur de petites et moyennes entreprises a été votée en République démocratique du Congo. Les projets d'appui au développement des micro, petites et moyennes entreprises visent les soutiens aux entrepreneurs dans les villes de Kinshasa, Matadi, Goma et Lubumbashi. Par cette loi d'un seul article, les élus du peuple ont endossé le crédit d'un montant de 100 millions de dollars américains que le gouvernement avait obtenu de la Banque mondiale en septembre 2018 pour appuyer les entrepreneurs. Dans le milieu des entrepreneurs principaux bénéficiaires de ces financements, on appelle à toutes les parties impliquées pour accélérer ces processus des mises en vigueur de cet accord, surtout à l'approche de la date du 24 octobre prochain, fixée comme délai butoir d'annulation du crédit s'il n'est pas ratifié. Au Togo, 14 villages des régions de Savane, de la Kara et Centrale vont être raccordés à l'électricité via des kits solaires individuels. Le haut réseau kit et mini centrale solaire est désormais la solution retenue pour desservir les zones reculées. L'opération est financée par le Conseil de l'Entente et elle permettra de servir environ 1000 foyers. Le gouvernement togolais ambitionne de parvenir à une couverture de 50% grâce aux énergies renouvelables d'ici 2030. Les conseils, rappelons que le Conseil de l'Entente, actuellement présidé par les Togo, comprend le Bénin, le Burkina Faso, la Côte d'Ivoire, le Niger et les Togo. Au Nigeria, après la victoire en justice des États fédérés producteurs de pétrole, le gouvernement réclame 62 milliards de dollars aux compagnies pétrolières étrangères. L'État nigérien affirme aujourd'hui vouloir un meilleur partage des revenus pétroliers, mais il est plutôt embarrassé par la loi qui prévoyait qu'au-delà de 20 dollars le baril par jour. Cette loi était votée en 1993, au moment où les gouvernements avaient initié les premiers contrats de partage de production pour exploiter les gisements au large. En somme, les compagnies étrangères contestent la décision de la Cour suprême sur la forme parce qu'elles n'ont jamais été auditionnées. Et nous terminons au Niger. Le Parlement a donné son approbation pour la ratification des trois accords d'un montant global de 60,3 milliards de francs CFA. Ces financements serviront au programme de Kandaji et l'aéroport de Tillabéri, à l'instar de cet aéroport qui sera doté d'une piste de 2,1 km. Les autres chantiers initiés dans le cadre du programme Tillabéri-Tchandalo, qui commémore la proclamation de la République du Niger le 18 décembre prochain, ont bien avancé. Le Parlement a ensuite donné son autorisation pour la ratification des conventions de financement avec la Banque Ouest-Africaine de Développement et la Banque Mondiale pour les travaux de modernisation de l'aéroport de Niamey et des constructions de l'aéroport de Tillabéri. Rappelons que ces accords de financement avaient été signés en juin 2019 à Malabo, en Guinée équatoriale, entre la République du Niger, le Fonds africain de développement et la Banque africaine de développement.
Farafina, votre rendez-vous hebdomadaire sur Channel Africa, la radio panafricaine. Farafina, votre programme des actualités en langue française sur Channel Africa.
Plusieurs centaines de réfugiés ont encore assiégé ce jeudi la devanture du siège du Haut Commissariat des Nations Unies dans la ville sud-africaine du Cap Oriental. Comme depuis quelques jours, il demande à être relocalisé après les violences xénophobes de septembre dernier. Le sit-in de mercredi fait suite à la visite de deux jours du haut commissaire des Nations Unies aux réfugiés, Filippo Grandi. Bertin Manois, un des leaders du collectif de représentants des réfugiés au CEP, revient sur cette manifestation.
Apparemment, la foule a été mentie par les organisateurs de la marche ou de sit-in. Alors, les gens qui sont désespérés n'ont écouté que le message qui leur était donné. Et c'est pourquoi ce matin, le nombre a beaucoup augmenté au niveau de l'office de la sœur, puisqu'il y a quelqu'un qui est passé là avec une liste qui écrivait les gens, soi-disant que nous, la sœur lui a demandé de faire une liste pour que ces gens puissent se ramener quelque part ou les déplacer de la Zambie, puisque la Zambie sera utilisée comme un pays de transit. Et tout ça, c'était des mensonges. La sœur a fait un pamphlet qui explique toute la situation, qui montre aux réfugiés que la sœur a compris le problème, mais néanmoins, la solution de sit-in ne sera pas la réinstallation, puisque la réinstallation est réservée seulement à un petit peu nombre de gens, et des gens là qui remplissent les critères de la réinstallation.
Mais qu'est-ce qui fait en sorte que la manifestation est toujours d'actualité alors que le haut-commissaire pour les réfugiés, Filippo Grandi, a bien conclu sa visite en Afrique du Sud en expliquant clairement que le HCR ne pouvait pas prendre en charge la relocalisation de toutes ces personnes?
Je pense que c'est le problème des gens qui gèrent la foule. Les gens qui gèrent la foule ne veulent pas donner la vraie information à la foule. Nous essayons peut-être de faire des messages, nous essayons de voir des gens individuellement, mais les gens ne sont pas prêts à écouter le message qui leur vient des autres gens, à part les organisateurs de la marche. Pourtant, les organisateurs de la marche savent bien que la solution à ces problèmes ne viendra pas directement de la marche qu'ils font, surtout à la relocalisation et aussi la réinstallation. Donc, c'est un problème seulement de communication avec ces gens-là qui organisent la marche et la foule. Mais aujourd'hui, je pense que la foule est en train d'être consciente maintenant, puisqu'il y a une désolidarisation qui commence à entreprendre.
Vous, en tant que leader de ce collectif représentant les réfugiés de Western Cape, qu'est-ce que vous pensez de cette situation lorsque vous voyez que vos ressortissants ne vous écoutent pratiquement pas?
Je pense que c'est un petit nombre, ce n'est pas un grand nombre de gens qui est là. Et les gens nous écoutent. Les gens nous écoutent. Ceux-là qui sont là-bas, ce sont des gens désespérés, qui ne croient qu'en la réinstallation. La réinstallation seulement, la délocalisation, c'est un prérogatif seulement qu'ils ont trouvé en cours de route. Moi, je pense que c'est juste le problème du temps. Beaucoup de messages ont circulé qui montrent la réalité de la chose, qui montrent la réalité dans leur faveur qui non, ils seront délocalisés. Il y a des avions qui sont à Pretoria, qui vont amener les gens. Il y a des bus qui là sera loué. Donc, tel genre de messages ont suscité vraiment la masse. Et c'est pourquoi les gens ont voulu écouter à des messages pareils. Vous savez, le réfugié, c'est quelqu'un qui est désespéré avec les traumatismes que les gens ont ici, avec beaucoup d'effets de la xénophobie. Les gens ne croient qu'en de tels messages.
Alors, est-ce que cela signifie que dans les prochains jours, tous les migrants vont regagner leur domicile?
Bien sûr que oui. À partir d'aujourd'hui, déjà, le nombre diminue. Et puisque la sœur a mis un pamphlet juste là où ils sont en train de dormir, qui montre le problème et la piste de solution. C'est écrit en anglais et en français. Nous sommes en train de traduire ça en swahili et dans d'autres langues pour que les gens puissent avoir le message direct de la sœur. Le message que le représentant venant de Genève, Gandhi, a donné, les gens n'ont pas su comprendre, puisque c'était un long document du rapport. Les gens n'ont pas su comprendre, c'était en anglais, mais on a essayé un peu de simplifier les messages. On a mis ça dans le pamphlet. C'est compréhensible. Les gens, quand les gens ont lu ça, ils m'ont appelé. Ils ont dit que non, on comprend maintenant que vous avez été juste. Vous avez montré les réalités, mais on n'a pas voulu comprendre. Et les gens ne sont qu'en train de retourner à la maison.
Au Cameroun, le juge a ordonné mercredi la libération du docteur Apollinaire Oko, secrétaire à la santé du MRC et patron de ses partis dans la région du sud du pays, ainsi que d'autres partisans détenus du MRC. Ces militants qui bénéficient ainsi de la mesure de la grâce présidentielle vont quitter la prison de Kondegu vendredi après avoir rempli des formalités administratives. Sosthène Médard Lipote est le chargé de la communication du MRC.
Il y a 24 heures, le docteur Apollinaire Oko, qui est médecin de formation et de profession, et qui est par ailleurs, sur le plan politique, secrétaire national à la santé du mouvement pour la renaissance du Cameroun, le MRC, en même temps qu'il est le secrétaire de la fédération régionale du MRC dans la région du Sud. Donc, le docteur Apollinaire Oko, outre une dizaine d'autres personnes, ils ont été mis en liberté provisoire il y a 24 heures. C'était au tribunal de première instance, ici à Yaoundé. Donc, c'est en rapport avec les marches du 1er juin 2019, marche pacifique organisée par le MRC et ses alliés en vue de revendiquer, en fait, de s'insurger contre le hold-up électoral du 8 octobre 2018 au Cameroun, contre la guerre au nord-ouest, la guerre civile au nord-ouest et au sud-ouest, et surtout contre la corruption endémique et chronique qui a fait que 1000 milliards de francs CFA ont été pratiquement détournés dans le cadre de l'organisation, dit-on, de la Coupe d'Afrique des Nations que le Cameroun n'a pas pu organiser l'an dernier. Ou même cette année.
Est-ce qu'ils ont été mis en liberté provisoire en rapport avec la grâce présidentielle qui a été accordée à plusieurs membres de votre parti?
Je ne sais pas pourquoi vous appelez cela grâce. Ils ont été arbitrairement interpellés pour une marche pacifique qui est un droit constitutionnel et qui, par ailleurs, s'inscrit en droit de ligne des conventions et traités signés par le Cameroun. Donc, je vous le dis, c'était le 1er juin dernier. Et d'ailleurs, Dr. Eko et les autres amis politiques qui sont dans des, qui étaient dans des prisonniers politiques, ce jour-là avaient aussi été interpellés Mamadou Mota, premier vice-président du mouvement pour la renaissance du Cameroun. Il est encore en prison. Et aussi de nombreux autres cadres et militants du MRC et des partis alliés. Je dois vous dire ici, à votre attention s'il vous plaît, que le docteur Oko, ce jour-là, avait aussi été interpellé au même moment que Sa Majesté Paul-Marie Biloa Effa. Sa Majesté Paul-Marie Biloa Effa avait aussi été interpellé et lui, il a été mis en liberté depuis plusieurs semaines et le docteur Apollinaire Oko est resté en prison.
Et on parle d'une audience qui va se tenir le 18 décembre prochain pour tous les autres détenus qui doivent être mis en liberté provisoire. En quoi consiste cette audience si la liberté provisoire a été déjà décidée en leur faveur?
Oui, le docteur Apollinaire Oko et les autres qui ont été mis en liberté il y a 24 heures et même il y a quelques semaines pour certains autres, seront donc à cette audience du 18 pour le délibérer, s'il vous plaît. Le délibérer, donc le verdict au fond.
Chaque année, près d'un tiers de l'ensemble de la nourriture produite est destinée à la consommation humaine est soit perdue, soit gaspillée. Ces pertes et gaspillages ont des conséquences pour les économies, pour la sécurité alimentaire et pour l'environnement. C'est ce qu'indique un nouveau rapport de l'Organisation pour l'alimentation et l'agriculture, la FAO. Au micro d'Anaïs Autin, Carola Fabi, statisticienne principale à la FAO, explique où ces pertes surgissent le long de la chaîne alimentaire et comment les pays redoublent d'efforts pour lutter contre les problèmes.
Donc ce rapport confirme que la question des pertes et gaspillages alimentaires est effectivement une question très sérieuse. La prise de conscience du monde avait eu lieu avec le rapport de 2011 qui estimait que un tiers de la production alimentaire totale n'était pas consommée et n'arrivait pas donc à son but, à la fin de la chaîne alimentaire. Or, il s'agissait d'une première approximation et ce nouveau rapport, en fait, est issu d'un long processus de collecte des données et de recherche pour aboutir à de nouvelles estimations. Et le nouveau chiffre en ce qui concerne les pertes, après la récolte et jusqu'à la distribution, ce chiffre est situé à 14%. Donc 14% de la production agricole n'arrive pas au point de détail, n'arrive pas à être vendue aux consommateurs. Malheureusement, une mise à jour des estimations pour les gaspillages alimentaires n'est toujours pas disponible. Et donc, nous ne savons pas quel est le nouveau chiffre à niveau mondial. Alors, les pertes des gaspillages alimentaires se situent-ils au niveau de 25%, de 35%, un peu plus, un peu moins? C'est quelque chose que nous ne savons toujours pas. Pourriez-vous nous expliquer brièvement la différence entre les pertes et le gaspillage alimentaire? D'après la FAO, les pertes alimentaires surviennent de l'étape de la récolte ou de l'abattage ou de la pêche, pour les autres catégories d'aliments, à la distribution. Donc jusqu'au détail, mais non compris le détail. Et donc, elles affectent les premiers maillons de la chaîne alimentaire, les producteurs, les fermiers, les éleveurs, les industries alimentaires, les industries de la transformation, mais aussi le stockage et l'industrie du transport. Elles affectent plus notamment les pays en voie de développement, étant donné qu'elles sont dues principalement à un manque de connaissances des bonnes pratiques, à un non-accès aux technologies ou à une mauvaise infrastructure, une faiblesse des équipements, non-accès au marché et à l'ensemble de conditions socio-économiques du contexte dans lequel les acteurs opèrent. Alors que les gaspillages alimentaires surviennent au niveau de la vente de détail et de la consommation alimentaire. Donc, elles sont du ressort des consommateurs et de la distribution des détaillants. Les régions les plus affectées sont l'Asie centrale et l'Asie du Sud, avec 21% de pertes le long de la chaîne de l'offre. L'Europe et l'Amérique du Nord, notamment, avec 16% des pertes, alors que le phénomène est le moins important en Australie et Nouvelle-Zélande, avec seulement 6% de la production qui n'arrive pas à la vente au détail. C'est bien sûr les fruits et les légumes et les racines et tubercules, où l'on a les niveaux des pertes les plus élevés, étant donné la périssabilité des produits. Et bien sûr, donc, les caractéristiques régionales et les caractéristiques des produits affectent donc les points critiques à travers la chaîne alimentaire. Et on voit beaucoup de variabilité au niveau des transports et des stockages.
Comment réduire les pertes et le gaspillage alimentaire?
La prise de conscience à tous les niveaux est certainement le premier pas pour aborder le problème. Surtout au niveau des gaspillages, un petit changement des comportements peut avoir un impact réel et concret au niveau du gaspillage individuel et dans les ménages. Mais la sensibilisation doit être combinée avec des politiques et des stratégies qui fixent des objectifs et aussi une décision stratégique par rapport à la mise en œuvre. Donc, faut-il donner des avantages financiers aux producteurs, des encouragements aux consommateurs? Donc, il faut en fait une approche systémique qui regarde à l'ensemble de la chaîne alimentaire, où sont les points critiques et quelles sont les actions concrètes et efficaces que l'on peut entreprendre. Et pour ce faire, il faut un engagement conjoint du secteur public, du secteur privé et de la société civile.
Comment le fait de réduire les pertes et le gaspillage alimentaire peut bénéficier au pays ou encore à l'environnement?
Donc, il y a au moins trois dimensions où l'on peut voir des bénéfices. Des dimensions déjà liées à une meilleure efficacité de la chaîne d'approvisionnement, où donc les producteurs et les différents agents peuvent augmenter leurs revenus du fait qu'ils parviennent à revendre une partie plus importante du matériel qu'ils ont acheté.
Farafina, Farafina.
L'actualité panafricaine en français? Ah bon? Mais oui, c'est tous les jours de lundi à vendredi, 16h GMT. Sur Channel Africa. Et n'oubliez surtout pas de tweeter @FrenchFarafina.
Nous passons tout droit au tour d'horizon de l'actualité sportive que nous présente Chanceline Louraquois.
«
Rebonjour à tous et à toutes. La Fédération sénégalaise de football est montée au créneau ce vendredi pour démentir les informations faisant état d'une exclusion de 8 joueurs sélectionnés pour le mondial de moins de 17 ans pour fraude sur l'âge. Le Sénégal précise également avoir déjà parvenu à la FIFA sa liste de 21 joueurs sélectionnés après avoir procédé à des visites de précaution avant le tournoi qualificatif de la CAN de moins de 17 ans qui ont permis d'écarter les joueurs dont le résultat de test IRM pouvait prêter à équivoque. Notons qu'aucun joueur de la sélection nationale de moins de 17 ans est retenu pour la Coupe du Monde FIFA Brésil 2019 n'a été recalé pour cause de fraude sur l'âge comme cela a été relayé par certains médias locaux. Toujours au Sénégal, l'international Sadio Mané entame ce vendredi sa 6e saison en Premier League. Il a une statistique qui surprend, plus d'un dont lui seul détient le secret. Depuis que l'ancien joueur de Red Salzburg est en Angleterre, il n'a jamais perdu à Anfield en Premier League. Cette série a débuté depuis Southampton, club dans lequel il a évolué entre 2014 et 2016. Avec le sein, le natif de Bombali ne s'est jamais incliné dans l'autre de Liverpool. Après son transfert chez le Red, la belle série continue. Sadio Mané ne perd jamais en Premier League quand il joue à Anfield. L'attaquant gabonais Aubameyang a de nouveau un salaire estimé à 20 millions d'euros. L'une des raisons est avancée par le club est que Aubameyang devient de plus en plus indispensable au club. Et c'est ce qui pousserait le premier responsable à lui offrir désormais un salaire faramineux de 20 millions d'euros. Une situation qui pourrait arranger Aubameyang et le club. Les joueurs vont toucher 20 millions d'euros, contrairement aux 11 millions à l'heure actuelle. Quant au club, il aura tout le plaisir de voir l'ancien des dormants faire soulever l'Émirat. En début de saison, Pierre-Emerick Aubameyang a inscrit 8 buts en 10 rencontres, toutes compétitions confondues. Le clou de ses belles performances est les trophées du joueur du mois de septembre dernier en Premier League. Notons que ce nouveau salaire est automatiquement synonyme des prolongations des contrats et vice-versa. En Sierra Leone, la Fédération de football a dévoilé jeudi les noms des entraîneurs des équipes de moins de 20 ans et féminines. Parmi ces noms, nous avons Abou Bakar Tostao Camara qui sera aidé dans sa tâche par Francis Zappa Koroma et Hassan Mila Cissé en entraîneur adjoint. Ibrahim Mazola Camara et les team manager. L'équipe nationale féminine se dote également d'un nouveau staff. Il s'agit donc d'Abdoulaye Kaloga Ba qui est le sélectionneur. Son assistante sera Fatmata Touray, tandis que Joyce Redwood Sawyer est le team manager. Les mois derniers, déjà le Ghanéen Sela Tété a été porté à la tête de l'équipe nationale masculine. La Sierra Leone accueille en décembre prochain les tournois des dames de l'UFOA. La Tunisie était sans entraîneur depuis le départ du Serbe Nebojša Jovović. Le club sportif xavien vient de signer un accord avec le tacticien tunisien Fatih Djebbal pour diriger la première équipe. Il devra être focalisé par les dirigeants du club sportif xavien la semaine prochaine. Fatih Djebbal aura à ses côtés sur le banc xavien Abdelaye Ben Soltan comme entraîneur adjoint et Walid Ben Hassine comme entraîneur de gardien. Rappelons que Djebbal avait dirigé le CSS après le départ de Ruud Kroel la saison dernière. Et enfin, nous terminons en République démocratique du Congo. Le vert et le noir de la capitale congolaise évolueront aux côtés des 3 clubs maghrébins, dont le tenant du titre de la Ligue des Champions. Sur le chemin, le Marocain des Rajas de Casablanca, les Algériens de la JS Kabylie et les Tunisiens de l'Espérance des Tunis. L'Asvita Club débutera sa campagne de la Ligue des Champions en Algérie face à JS Kabylie le week-end du 29, 30 et 31 novembre prochain, avant de recevoir le Marocain de Raja Casablanca le dimanche 8 décembre prochain à Kinshasa. Puis la Svita se rendra en Tunisie pour retrouver Espérance Sportive de Tunis les week-ends du 27, 28 et 29 décembre prochain.
On va se donner rendez-vous demain pour encore plus d'informations africaines sur Canal Afrique. Farafina pour aujourd'hui, c'est donc terminé. Avec vous, c'était Guillaume Kabisoso. La mise en onde était assurée par Ibrahim Ravelino. Merci pour votre aimable fidélité et à très bientôt. Au revoir.
Chaba, 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 ch